Je suis natif de l'Ariège et je suis parti à Paris à l'âge de 19 ans. Je suis né en 1939 et je suis donc revenu en Ariège où il y a de l'espace, où il y a du bon air, il y a beaucoup de bonnes choses. Et donc là, j'ai un atelier où je bricole. Voilà. Alors, quand Barthélémy dit que j'ai eu beaucoup de... Non, d'abord, tu veux passer la maison ?
Non, c'est la suivante.
Alpexpo, peut-être ?
Oui, oui. C'est la suivante.
Ah oui, d'accord. Alors, ce que je peux dire, c'est que peu de personnes connaissent Jean Prouvaire, l'homme. Bon. C'est un homme qui, à mon avis, hein, connaît parfaitement les matériaux. Et il sait comment les utiliser, et il sait parfaitement à quoi s'attendre quand on utilise soit de l'acier, soit de l'aluminium, soit du plastique, etc. etc. Donc, il avait un atelier, il avait 200 personnes à Nancy. Cet atelier a été réquisitionné par l'aluminium français, parce que l'aluminium à l'époque se développait de plus en plus. Et donc, on a demandé à Jean Prouvaire de quitter ses ateliers et de faire autre chose. Voilà. Donc, Jean Prouvaire est venu à Paris. Et à Paris, il a monté un atelier d'architecture. Et il travaillait aussi comme ingénieur conseil dans une société qui s'appelait la CIMT. La CIMT est une société industrielle de matériel de transport. Et là, il a été ingénieur conseil parce que, à cette époque-là, cette société travaillait pour Pierre Latte, l'usine atomique de Pierre Latte. Et donc, Jean Prouvaire était conseil et il se portait un peu garant sur les plans, etc., etc. Et c'est là que moi, j'ai commencé, dans le bureau d'études, à dessiner des plans. Et on travaillait le samedi, éventuellement, pour pouvoir être à jour, parce qu'il ne fallait pas être en retard. Donc ensuite, Prouvaire donc, connaissait bien tous ces dessinateurs. Je suivais les cours au CNAM, et un jour, il m'a demandé si je voulais travailler avec lui. Bien sûr, je n'ai pas dit non. Voilà. Voilà comment ça a à peu près commencé. Et puis de là, de fil en aiguille, quand on travaille avec une personne qu'on aime bien, on discute de beaucoup de choses, on se connaît plus ou moins bien, plutôt bien que mal, et je connais à peu près bien l'esprit de Prouvaire. Ce qui veut dire que cet homme-là connaissait parfaitement les matériaux et il avait horreur du gaspillage. Autrement dit, ce qu'il souhaitait, c'est que tout soit le plus simple possible, sans gaspillage. Et je vais vous donner un exemple. Voilà, ce bâtiment. Alors, ce bâtiment est venu de la façon suivante. En 1966, il était question des Jeux Olympiques à Grenoble. Il y avait un immense terrain et il s'agissait de proposer un bâtiment qui d'abord devrait servir de gare routière et puis ensuite de bâtiment d'exposition. Et il fallait que ce soit le plus simple, le moins cher, évolutif et que on respecte les délais. Or, quand vous avez des Jeux Olympiques, il n'est pas question de dire « bon, il y a un petit retard à cause de ceci ou à cause de cela ». Et pour faire ce bâtiment, un jour il me demande, Vinotto, est-ce que vous pouvez me faire cette maquette? Je lui ai fait une maquette, elle faisait 1 mètre par 1 mètre, 4 poteaux, une structure et un élément de façade. Il a pris cette maquette, il a été à Grenoble au service technique, plus les architectes, etc., etc., qui devaient décider. Et voilà qu'il revient en me disant, Binotto, on a la commande. C'est agréable. Alors, bon, évidemment, quand vous avez la commande, eh bien, vous dites, vous commencez par dessiner. Tout ce qui n'est pas bon, vous le foutez à la poubelle. Et finalement, on a trouvé le moyen de faire ce bâtiment avec 5 éléments différents. Un poteau. Alors, le poteau, c'est un poteau, mais vous le dessinez peut-être tout à l'heure. Une poutre principale, un treillis au-dessus et une façade. Donc vous voyez la façade, par exemple, vous avez le poteau, un autre poteau, ici une glace ou un panneau. Vous les voyez là. Donc il fallait que ce soit interchangeable et mobile. Et le client voulait que la façade soit évolutive selon l'utilisation du bâtiment. Chose qui était possible, c'eût été de percer les trous dans les panneaux de vitrage ou de percer des trous dans les panneaux de façade et de les interchanger. Mais c'était un peu compliqué parce que ça demandait un certain nombre de précision dans tous les trous. Et là, donc, Saint-Gobain, qui à l'époque a fourni tout le vitrage, n'était pas tout à fait d'accord. Alors donc, on a trouvé une solution, c'était de faire un peu comme on fait sur les machines-outils, des clames. Donc, on fixe la pièce avec des clames. Et donc, voilà comment ce... Je vais assez vite, hein. Et donc, voilà comment ce bâtiment a évolué. Alors, c'est posé le problème de la toiture. C'est pour ça que je vous présente cela, parce que les problèmes de toiture terrasse, c'est toujours très compliqué. Donc, plus le bâtiment est compliqué, plus les toitures sont compliquées, plus les descentes d'eau sont compliquées. Et là, donc, nous avons pour chacun des éléments, je ne sais pas si on les voit assez bien, vous avez le poteau ici, l'autre poteau qui est à 36 mètres, et donc la descente d'eau se fait par élément de 36 mètres par 36 mètres. Donc, quelle que soit l'évolution du bâtiment, sur 1000 mètres carrés, puisqu'en gros 36 par 36, ça fait 1000 mètres carrés, il y a à chaque fois une descente et des sky domes pour l'éclairage et éventuellement, s'il y a un incendie, une ouverture. Donc, ce bâtiment a été commencé le 2 ou le 3 janvier 67. Et en 68, décembre 68, on faisait péter le bouchon de champagne. D'accord ? Alors, je vous laisse le soin d'imaginer les heures que j'ai pu passer, les parcours qu'on a fait entre Grenoble et puis Paris, et surtout le stress qu'ont pu avoir les entreprises pour terminer en temps et en heure. Ce bâtiment, ensuite, il a été donc agrandi, et agrandi avec les mêmes éléments d'origine. Alors, maintenant que je vous dise comment ça a été fait, donc les poteaux sont des poteaux, c'est des quadripodes, ils sont tous identiques. Il y a une poutre principale qui fait 36 mètres de portée. Elles sont toutes planes, parfaitement planes. Et le treillis qui est au-dessus, lui, il est ondulé. Mais l'ondulation, vous ne la voyez pas. C'est-à-dire que sur les poutres principales, il y a un point haut, un point bas, un point haut, un point bas. Et de ce fait, voilà, donc je vais le dessiner rapidement. Donc vous avez.
Appuie sur le bouton.
Le bouton du stylo.
Oh, ok.
Il faut appuyer sur le bouton.
Voilà. Ah, c'est marche mieux. Bon, allez. Donc, le poteau quadripode, le voilà. Hein? La poutre principale, la voilà.
les deux font ici. L'espace fait 36 mètres de là à là. Donc cette poutre est assemblée par boulonnage, l'autre qui vient perpendiculaire par boulonnage. Et tout ça, c'est rigoureusement à l'horizontale. Et il y a ici un petit porte-à-faux et il y a les façades. Les façades sont des éléments qui sont clamés, donc on va faire la clame comme ceci. Et donc, à l'époque, on a imaginé mettre un vitrage et ici un panneau émaillé. Alors, évidemment, on a cherché une usine pour fabriquer des panneaux émaillés et ça a été difficile d'en trouver. On n'en a trouvé qu'une en France. Mais, je vous expliquerai comment on fait de l'émail, mais les panneaux avaient une certaine longueur. Les panneaux faisaient 3 mètres, 2 mètres 700. Par ici, 1 mètre 10. Les trames de la structure trail porteur, ici, je dessine rapidement, hein. La trame fait 3 mètres, donc il manquait 20 cm. Pour compenser ces 20 cm, si Jean Prouvet, donc il a eu l'idée, il m'a dit, bon, bah, écoutez, à ce moment-là, on va faire des poteaux en forme de V. Donc je dessine le poteau ici, le poteau en forme de V, qui est fixé sur l'extrémité de la charpente, et on va mettre ici les panneaux émaillés ou les panneaux de vitrage, et ainsi, on récupère les 30 cm qui nous manquent. Ces panneaux, donc émaillés, je les ai utilisés pour ma maison ronde. Bien. Alors, maintenant, il faudrait que je vous explique un petit peu ce que c'est que la tôle émaillée. Bon, il y a plusieurs façons de protéger l'acier. Soit vous utilisez des aciers spéciaux et à ce moment-là, c'est de l'acier pratiquement inoxydable, ça coûte très cher. Soit vous utilisez des panneaux, enfin de la tôle d'acier que l'on trempe dans un bain de zinc et à ce moment-là, ça devient une tôle galvanisée. Soit vous trempez cette tôle, vous projetez sur cette tôle une peinture plus ou moins résistante et vous avez de la tôle laquée. Voilà les quatre solutions que vous avez pour protéger de l'acier. La tôle émaillée, c'est quelque chose qui est d'une durabilité invraisemblable parce que l'émail, c'est du verre. Donc vous projetez sur de l'acier du verre. Et l'acier est vraiment protégé. Mais on ne peut pas faire n'importe quoi. Ça coûte très cher. Pour le faire, ça se fait dans des fours qui ont une certaine longueur. La tôle qui est traitée rentre dans le four. Elle devient toute rouge parce que le four est à 900 degrés. Et quand ça ressort, l'émail est fixé sur la tôle. Donc cela veut dire que la tôle doit être parfaitement finie avant d'être émaillée. Vous ne pouvez pas plier une tôle qui est émaillée, alors que la tôle galvanisée, vous pouvez la plier. Vous pouvez faire un objet fini en tôle galvanisée. En émaillage, ce n'est pas possible parce que l'émail casse. Alors maintenant, sur ces portées, vous voyez, 36 mètres, il a fallu trouver le moyen de faire de l'écoulement des eaux. Alors pour faire l'écoulement des eaux, c'était très simple. Ici, on met un petit potelet, un autre potelet, un autre potelet, un autre potelet, un autre potelet, et ainsi, voyez, ça varie. Et donc le point bas est ici. Et ici, un réceptacle, donc la toiture est là, hein, un réceptacle, et l'eau descend comme ceci. Alors ça, je l'ai utilisé pour ma maison ronde, ce système-là. Sauf que, au lieu de mettre la charpente avec de certaines variations, moi j'ai fait varier la mousse polyuréthane. J'ai mis des épaisseurs de mousse plus importantes en périphérie de la maison, moins importantes au centre, et ainsi j'ai obtenu la pente de 1,5% et l'écoulement des eaux se faisait comme cela. Voilà. Alors, sur Grenoble, je pense que c'est tout ce qu'on a à peu près à dire. Hein? Je pense que vous avez vu, mais voyez, ce qu'il faut retenir, c'est que pour un bâtiment qui est énorme, il y a très peu de pièces identiques. Et toutes répétitives. Et ça, c'était l'esprit de trouver toujours un maximum d'économies pour un, minimum, un maximum de d'objets fabriqués. Alors maintenant, il faut effacer ça. Hein? Alors, il faut qu'il y ait quelque part. Non. Bon. Bon. Là, je crois que vous avez compris à peu près. Pas de questions, non?
Allez.
Allez, allez, mais parle un peu fort parce que je suis dur à la feuille. Hein.
Les éléments qui sont utilisés.
Attends, je m'approche.
Les éléments qui sont utilisés pour fixer le vitrage, ou justement ces éléments de vitrage émaillés, les clamés, c'est ça? Je ne sais pas le terme.
La clame.
La clame.
Oui.
Ça, vous les avez dessinés ou c'est, vous avez fait appel
à un dessin?
Non, mais savoir si c'est vous, enfin, si c'est
genre. C'est voulu. C'est voulu.
C'est vous qui l'avez dessiné?
Oui.
Et après, vous avez fait appel à une entreprise.
Et après, donc, on l'a construit, mais c'est pas par le CSTB, je te signale. Et puis, le grand reproche qu'on nous faisait, c'était qu'on risque de démonter les clames et d'ouvrir la façade. En 50 ans, ça n'est jamais arrivé. Donc, vous voyez, tout ce qu'on peut dire sur un bâtiment, il y a ceci, il y a cela. Bon, il faut laisser. Mais quand tu fixes vitrage, je peux m'en passer. Quand tu fixes un vitrage, par exemple, tu perces 4 trous, tu boulonnes ton vitrage, bien sûr avec des joints. Hein. Or là, au lieu de percer des trous, on pousse comme ceci. Et on a la tige qui tire là, au milieu. Voilà.
J'avais une question concernant l'écoulement des eaux dans la maison de Binotto.
Je m'approche.
Hein. Comme il a dit que c'était le. Enfin, du coup, vous avez utilisé le même système d'écoulement des eaux à la Texpo et à la maison de Binotto. Et du coup, vous avez fait passer un tuyau dans l'espace
au
extérieur.
Au centre, oui. Okay. Dans le bloc technique. Bon, allez, la suivante chose, parce que je crois que leur tourne est si. Si je m'écoute, je cause beaucoup. Hein.
Non, c'est bon, Thomas.
Alors, c'était quoi ensuite?
Tout à l'heure.
Ah, oulala. Oulala. Alors, donc, je vais vous dire, c'est un projet qui est super intéressant à cause du programme qui a été demandé par Total. Bon, c'était en 68 ou 69, on venait de terminer Alpexpo, et un jour dans l'atelier, il y a le directeur de chez Total qui vient et qui dit, voilà, on sait que vous faites du préfabriqué, nous, on aurait des stations à vous confier, mais faut que ça soit vite construit, un mois. Vous avez la réputation de construire rapidement, nous, ça nous intéresse. Alors, on a demandé le programme à ce directeur. Donc, il nous a fixé comme programme. Il faut que les bâtiments soient une image de marque Total. Et surtout, il faut qu'ils répondent à deux fonctions. Un, on remplit son réservoir et l'autre, on vide sa vessie. Alors, si vous trouvez un programme d'architecture plus simple que ça, vous me le dites. Ce qui est exact d'ailleurs. Quand vous êtes tous dans votre voiture, vous regardez devant vous, vous avez des panneaux, et puis selon le panneau qui indique le distributeur d'essence, vous vous arrêtez ou pas. Alors, pour réaliser ces bâtiments, donc vous voyez la maquette ici, on a été au début très embêtés parce que Total voulait augmenter son parc de distribution. Et ils avaient des terrains qui étaient très variés, des terrains très étroits, ou au contraire très larges, ou des terrains extrêmement difficiles d'accès et avec une surface souvent petite. Donc ils nous ont donné tous les plans des terrains, enfin ils nous en ont donné une vingtaine, on a superposé les plans, et ça a donné quelque chose d'assez curieux, ça a donné une patatoïde de construction. Et donc là on s'est dit, ah, peut-être qu'on pourrait proposer un bâtiment circulaire. On a proposé ce bâtiment. Là, vous voyez la maquette. Je suis encore surpris de la voir là, en photo, mais enfin, c'est comme ça. Hein. Et dans la société totale, il y avait les pour et il y avait les contre. Alors, évidemment, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, on ne sait pas. Donc, ils nous ont demandé de réaliser cette maquette à l'échelle 1 dans un des bâtiments désaffectés qui leur appartenaient. Donc, avec des amis, on a pris donc la scie circulaire, des clous, le marteau. On a fait ce bâtiment à l'échelle 1, en contreplaqué, peint. Et puis, donc, tout le monde a pu voir, enfin, tout le monde, tous les services de chez Total ont pu apprécier le volume du bâtiment. Donc, on n'a pas fait un cercle comme ça. Pour le plaisir, on a essayé de proposer quelque chose qui tenait la route. Alors certains ont rajouté des grilles soleil parce que ça devait aller dans le sud de la France. D'autres ont dit ceci, d'autres ont dit cela, peu importe. Donc, une fois que tout le monde était d'accord chez Total, on a fait les plans de détail. Alors quand on fait les plans de détail, toujours la même philosophie, le minimum de pièces, et les raccordements les plus simples. Et c'est pour ça que, ici, nous avons une largeur qui fait la largeur de transport de 1,4 m et une longueur de plus de 3 m. Des poteaux pour soutenir la toiture et des quartiers avec un plancher bois qui fait plancher. Et le même plancher va en toiture. Donc, c'était un double usage, la découpe des panneaux de plancher que la découpe de toiture. Au point de vue cloison, les cloisons sont toutes identiques parce que c'est rayonnant. Donc, selon les stations, la décision a été prise de mettre une cloison comme ceci ou comme cela, peu importe. Et entre deux cloisons, les toilettes. Voilà encore un bâtiment, je crois que c'est le bâtiment de Nantes qui a été restauré ça. Voilà. Alors, là, ce qu'il y a d'intéressant dans ce bâtiment-là, c'est qu'il y avait une certaine surface qui donne une longueur de circonférence, une largeur de transport de 2,4 m. Quand vous divisez la longueur de la circonférence par 2,4 m ou à peu près, vous avez 13 côtés. Donc c'est un bâtiment de 13 côtés. Bon, pourquoi 13 côtés? Je vous ai donné la solution. Il n'y a rien de plus mystérieux que cela. C'est des raisons techniques de fabrication. Ces panneaux ont été faits par la société Matra. Matra à Romorantin faisait en même temps des voitures, mais voulait lancer des panneaux de construction, des panneaux de maison en matière plastique. Donc là, on a utilisé un moule, on a projeté comme on fait pour les bateaux, on a projeté du polyester, sur le polyester, on a mis une plaque, on a mis de la mousse polyuréthane et une autre plaque de polyester par-dessus, et on avait un panneau de 60 mm d'épaisseur qui constituait donc la façade. Donc les panneaux sont équipés de leur châssis de fenêtre, qui sont coulissants, ou des portes. Et donc, à l'époque, on venait de terminer ces stations, et j'ai été inspiré pour ma maison ronde. Voilà le lien qu'il peut y avoir. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que le programme de Total a été respecté. Ces bâtiments ont été construits en un mois. À partir du moment où ils avaient le permis de construire et le moment où on mettait du fuel ou de l'essence dans la voiture, 30 jours de délai. L'entreprise qui a construit ces bâtiments était payée 30 jours de fin de mois. Ce qui fait que si vous comptez, ils ont distribué de l'essence avant de payer le bâtiment. Il y a eu 101 bâtiments construits en France. Mais, petit problème, c'est que pour certains permis de construire, il y avait un délai de vie des bâtiments. C'est pour ça que beaucoup de ces bâtiments ont disparu, parce qu'il ne fallait pas que ça dépasse plus de 15 ans, je crois. Et puis, comme la société Total a évolué dans son mode de distribution, etc., etc., beaucoup de ces bâtiments ont été détruits. Je n'ai pas récupéré, je vous l'assure, hein, mais je le regrette. Voilà. Alors, on peut passer. Ça va, je suis dans les temps.
Tu peux boire un verre d'eau ? Un verre d'eau ?
Non, 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 ça va, c'est bon. C'est pas ça, bon, c'est gentil.
Ah,
il y a une question.
Voilà.
Sur certains bâtiments, vous nous avez dit, par exemple, qu'il y avait des brises de soleil.
Pardon ?
Vous avez dit sur un bâtiment, par exemple, qu'il y avait des brises de soleil. Est-ce que sur chacune des variantes, vous avez fait des modifications ?
Les brises de soleil, je vais vous dire, c'était une idée d'un des directeurs commerciaux de chez Total qui disait que si on expose des produits à vendre à l'intérieur de la boutique, avec le soleil, etc., etc. Donc, ils ont voulu mettre des brises de soleil. Mais c'est des pièces rapportées. Hein.
D'accord. C'était pas vous qui l'aviez dessiné ?
Non, non, non.
D'accord.
Non. Pour nous, c'était beaucoup plus simple. C'était le bâtiment pur et simple. C'était une boîte de distribution d'essence. Bon. C'est assez compliqué quand même parce que on n'imagine pas les réseaux électriques, les réseaux sécurité qu'il y a entre le bâtiment et les pompes. Je peux vous garantir que c'est sérieux comme tuyauterie de sécurité, et on ne peut pas faire n'importe quoi. Alors ça c'est un bâtiment qui n'a pas été réalisé, à mon grand regret d'ailleurs. Ce bâtiment est une suite, aurait été une suite des constructions des Arcs 2000, des stations de ski. Le propriétaire du terrain avait un terrain très pentu, rocailleux, et on ne pouvait pas faire trop de terrassement. Donc, ils nous ont proposé d'étudier un bâtiment avec un certain nombre de cellules. Ce bâtiment aurait été construit l'été, transportés par hélicoptère, boulonnés et terminés. Donc là, je crois que on va être assez clair. Vous avez la structure, charpente métallique, un platelage, décloisonnement entre les cellules, des stabilités comme ceci, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que toute l'enveloppe avait été proposée en panneau polyester avec une épaisseur de polyuréthane de 12 cm d'épaisseur. Des essais ont été faits, mais le bâtiment ne s'est jamais construit. Et c'était Matra qui, eux, voulaient lancer cette construction de panneaux polyester pour justement faire tourner un petit peu plus la boutique. Il y a ceci d'intéressant dans ce bâtiment, c'est que on rentre par le bas, un grand escalier commun. Ici, autour d'une cheminée centrale, un espace commun, et puis des cellules. Et ces cellules sont à deux niveaux. Donc, c'est un petit peu comme comme pour la cité radieuse, vous avez deux niveaux. Et tout à fait au-dessus, une terrasse avec, dans les panneaux, une résistance électrique pour faire chauffer pour faire fondre la neige. Bon, ça n'a pas été réalisé, pour des raisons que j'ignore. Voilà. Voilà un bâtiment encore circulaire qui avait été étudié et qui ne s'est pas réalisé. Alors. Bon. Alors. Bon, j'étais, vous voyez, déjà très, très, très dans le bain du circulaire. Ceux-ci sont des panneaux tolémaillés. Donc, je vous dessinerai tout à l'heure, à moins qu'il y ait les plans. Il y a les plans ?
Il y a plein de plans, oui.
D'accord.
Je peux faire tourner.
Alors, bon, je travaillais chez Jean Prouvet, et puis on entendait dire, ouais, le préfabriqué ceci, le préfabriqué cela... Il avait mauvaise presse, le polyuréthane ceci, le polyuréthane cela, encore mauvaise presse. Et donc mes parents, qui quittaient une ferme, se sont rapprochés de Mirepoix et ils voulaient construire une maison. Bon, ils voulaient construire une maison selon la tradition. Alors je leur ai dit, attendez, moi je peux vous faire quelque chose et puis après on verra. Donc je les ai pris un peu comme cobayes. Je me suis amusé, j'ai expérimenté un certain nombre de choses, et s'il y en avait un à qui on pouvait reprocher, c'était moi. Bon, mais 50 ans après, on me le reproche presque. Enfin, toujours pour vous dire que j'ai eu beaucoup de mal pour avoir un permis de construire, vous devez vous en douter. Mais grâce à M. Castin, qui était à l'époque responsable de la région, et grâce à Jean Prouvet aussi, Jean Prouvet donc lui a écrit en disant « Mon collaborateur Binotto se construit une maison pour ses parents avec des techniques que nous connaissons et j'ai eu le permis de construire. » Bon, c'est très bien, merci beaucoup. Voilà. Et alors, je vais vous dire, donc j'étais en train de dessiner ça sur ma planche de dessin et puis Prouvet qui passe, il me dit « Qu'est-ce que tu fais Binotto ?» Ben, je dis « Je dessine ma maison. » Qu'est-ce que vous en pensez, M. Prouvet ? Ben, écoute, tu l'as dessiné, tu la réalises. Terminé. Voilà. Voilà comment ça a commencé. Alors, je lui ai dit merci. Je l'ai faite à ma façon. Hein. Alors, donc, on va la détailler. D'abord, on a décapé le sol. Alors que je vous dise que le terrain que mes parents avaient acheté était un terrain assez, assez grand. Ensuite, quelques années après, une partie du terrain a été expropriée pour faire un rond-point. Et à cause de ce rond-point, ben, écoute, il y a des nuisances et ma maison en a pris un coup. Je ne pouvais pas la louer parce que c'était bruyant. Pas moyen de faire un mur anti-bruit parce que bon, ça se faisait pas. Et donc, j'ai supporté les nuisances pendant un certain temps. Et puis je l'ai vendu à une personne qui faisait de la sculpture. Je pensais bien faire parce qu'en fait, je me disais, ouais, chouette, ça va vivre. Il va y avoir des sculptures un peu partout. Mais la personne qui l'a acheté, bon, je pense qu'elle avait une autre idée derrière la tête. Et elle l'a revendu. Et quand elle a revendu, moi qui suis un technicien, je suis un peu curieux des fois, j'ai voulu voir comment certains matériaux ont vécu. Donc, ce qui m'intéressait de savoir, c'était sur la toiture, comment ça avait résisté. Les joints qu'il y a entre les panneaux, comment ça résistait. Et finalement, je me suis aperçu que demi-siècle après, c'était encore neuf. N'est-ce pas, M. Barthélémy ? C'était tout neuf.
Ce que dit pas Serge, parce que là, il est très elliptique, mais quand la dame a vendu, elle a vendu donc à cet antiquaire parisien qui est venu la démonter. Et donc Serge nous a prévenu, le syndicat d'architectes, etc., voilà, nous a envoyé un mail vers 2h du matin en disant « Allez voir, ils sont en train de la démonter. » Et nous, on a lu entre les lignes « Allez arrêter ça. » Et en fait, non, il nous a dit « Allez voir comment c'est bien construit, ils sont en train de la démonter. »
Voilà. Comme quoi, voyons, on ne s'explique jamais assez. Alors, pour décrire l'innovation qu'il y a eu, c'est que c'est une maison, contrairement aux stations totales, il n'y a pas un seul poteau. Ce sont les panneaux qui font les éléments porteurs. On va les voir tout à l'heure dans le détail. Ils sont émaillés à l'intérieur, ils sont émaillés à l'extérieur. Et ils font juste la largeur et la longueur du four. Ils font juste 2,7 m, la longueur des panneaux de Grenoble. Bien sûr, j'ai eu un petit prix quand même pour faire ces panneaux, naturellement. Les panneaux sont jointoyés entre eux par un joint silicone. À l'époque, le joint silicone n'était pas autorisé par le CSTB. Bon, maintenant, il y a beaucoup de bâtiments, il y a beaucoup de constructions qui sont jointoyées au silicone. Mais 50 ans après, les joints tiennent encore et ils sont toujours aussi souples. Et ceux qui sont venus voir la maison ont pu le remarquer. La toiture est faite par des panneaux de bois, qu'on appelle des panneaux rousseaux, c'est-à-dire c'est des panneaux multiplis, une lame de bois, perpendiculairement une autre lame de bois, et encore une lame de bois. Donc le panneau fait 40 mm d'épaisseur, ils font 1 mètre de large par 13 mètres de long. Une fois que le bloc central a été fait, on posait les panneaux. Sur les panneaux, je vais assez vite, après on verra.
Tu as le plan de la toiture juste après, si tu veux. Après.
On reviendra après en détail.
Là, il y a les panneaux.
Voilà. Alors, vous voyez les panneaux. Les panneaux, on les a détaillés ici. Donc, on a posé les panneaux. On les a fixés par des boulons sur les façades. Sur ces plateaux de bois, on a mis du polyuréthane qui faisait 4 cm d'épaisseur ici au centre. Et au fur et à mesure qu'on s'éloignait vers la périphérie, on doublait les épaisseurs de panneaux pour faire la pente. Chose que je vous expliquais pour Grenoble. Donc, un m'a servi pour l'autre. Alors, si on revient maintenant à la coupe sur les façades, pour que vous compreniez bien la chose. Ah oui, passe peut-être la précédente, là. Voilà, celle-là. Donc, vous voyez ici, le panneau, l'autre panneau, le boulonnage direct sur la dalle et le boulonnage en direct sur la toiture. Il n'y a pas de poteau entre ce panneau et celui-ci. Simplement un joint. Mais si on dessine la coupe, et ça je crois qu'on doit la voir,
non.
La coupe de détail.
Voilà.
Donc, vous voyez ici, vous avez la coupe verticale en partie basse. La coupe ici, verticale en partie haute, le panneau repose directement sur la tôle émaillée qui est pliée. Alors si on regarde maintenant la rigidité de la chose, alors là peut-être que tu ne l'as pas le dessin, mais je vais le faire. On peut enlever la...
Vous pouvez dessiner par-dessus, si
je vais dessiner.
Non ? À côté ? Je sais pas.
Je peux dessiner.
Sur un tableau blanc ?
Oui, non. Enlève tout. Bon, attends. Je peux dessiner ailleurs.
Si, si, si.
Bon, alors, si vous regardez donc la coupe, vous avez la tôle extérieure. Pardon. La tôle extérieure. Il y a un petit défaut dans mon stylo. Mais c'est pas très grave. Il y a un décalage. La tôle est pliée comme ceci. L'autre tôle intérieure est pliée comme ça. Le panneau suivant est monté avec un certain angle, comme ceci. Ah, pardon, là je suis allé un peu trop loin, mais bon. Si vous regardez cette coupe-là, c'est comme si vous aviez un nid. Donc ça ne sert à rien de fixer un panneau sur une ossature si lui-même comporte son propre hélisseur. Et voilà pourquoi, en prenant de la tôle, la pliant comme ceci, et en la remplissant de polyuréthane, vous obtenez un élément monobloc suffisamment rigide pour tenir par lui-même. Entre les panneaux, on avait mis ici une languette de bois, et ici était mis la mousse poly... le joint en silicone. Et c'est tout. Donc ça peut être critiqué, mais 50 ans après, ça n'a pas bougé. Voilà, bon. Un exemple. Alors maintenant, comment est-ce qu'on a fait ces panneaux? Parce que c'est intéressant de savoir dans les usines comment on fait ces panneaux. Alors, on a pris, donc, le panneau extérieur qu'on a posé comme ceci. Le panneau intérieur qu'on a posé comme ceci. Et si on regarde en coupe longitudinale, peut-être que je vais écrire plus haut pour qu'on puisse mieux voir.
Vous voulez un nouveau tableau ?
Voilà, ça c'est le panneau. Dans les maillets. Ça, c'est le panneau intérieur. Ça, c'est le panneau extérieur. Et ici, il y a la mousse de polyuréthane. Alors, vous me direz comment est-ce que vous faites pour remplir ça de mousse de polyuréthane. Alors, il faut savoir que le polyuréthane, je ne suis pas représentant du polyuréthane, mais simplement pour dire que c'est un matériau exceptionnel parce que ça colle partout. Et surtout, donc, on a coulé le polyuréthane ici. Vite, vite, on a fermé par un morceau de bois comme ceci. Le polyuréthane a coulé dans le fond et il s'est expansé. Et donc, en s'expansant, il a rempli toutes les cavités qu'il pouvait rencontrer. Et le panneau a été fixé par lui-même, sans un seul boulon, sans une seule vis. Uniquement le polyuréthane qui a fait l'association des deux. Actuellement, vous avez des sociétés qui font des panneaux de toiture ou des panneaux de façade, un peu de la même façon. Mais c'est un peu différent parce que c'est une canne qui se promène et qui crache comme une pomme d'arrosoir, qui crache le polyuréthane et qui le ferme. Essayer de détruire l'un par rapport à l'autre, vous aurez du mal. Bon. Dans le temps, qu'est-ce qui se passe? Ben, dans le temps, je pense que 50 ans après, ça tient encore. Voilà, ça c'était une démonstration.
Ça c'est le premier dessin que Serge nous a fait quand on a visité la maison. Et puis on s'est dit, bon ben voilà, c'est génial. Sauf que tu as oublié une pièce qui en bas referme tes deux plaques.
Comment?
Tu as oublié une pièce.
Ah, la pièce ici. Bon. Oui. Non, c'est-à-dire que là, avant de mettre la mousse de polyuréthane, je vais le dessiner. Voilà. Il y a un petit défaut dans ton stylo, hein. Un petit décalage. On a fait ici un petit profil en polyuréthane. On l'a posé à l'intérieur du panneau pour que la tôle puisse s'appuyer dessus. Et quand on a mis la mousse dedans, la mousse, elle a poussé. Elle a poussé donc ce joint. Et ce joint, il est venu donc se mettre comme ceci. Voilà, ça c'était l'idée de Jean Prouvé, hein. C'est pas la mienne.
Et comment vous avez dosé ?
Comment ?
Comment vous avez dosé
la
quantité de qu'on projette le polyuréthane ? Parce que ça pousse aussi quand on en met trop.
Ah
ouais. Alors,
elle connaît, hein. Bon, alors je vais vous le dire. C'est ce qui nous a poussé à faire le truc sur les panneaux. C'est-à-dire qu'on a utilisé, donc, vous avez remarqué que les panneaux, ils ont 4 trous. Donc, on a posé le panneau sur une table qui était faite avec des IPE. Hein. On a mis, et c'est pour ça qu'on a fait ça, c'est qu'on a mis une autre table qui était faite avec donc aussi des IPE. Et la mousse que vous avez là, elle faisait donc le calage. Et on a fait passer au travers du panneau des boulons. Donc, c'était maintenu en épaisseur. Et la poussée du polyuréthane pouvait se faire puisqu'il y avait ce qu'on appelle un conformateur, un moulage. Voilà. À l'époque, c'était la pression du polyuréthane était très importante. Maintenant, elle est beaucoup moins. À l'époque, c'était, je crois, du 200 grammes par centimètre carré. Donc, calculez combien ça fait, 200 grammes par centimètre carré, sur un panneau qui fait presque 3 mètres carrés, ça fait beaucoup. Très bien.
Vous
aurez une bonne note. Voilà. Donc, voilà, si vous voulez, quelques astuces de fabrication. Mais... dommage que ces usines-là ont disparu, parce que les tôles émaillées, c'est quelque chose de formidable. On peut avoir toutes les couleurs que l'on veut, et surtout, c'est éternel. Et je vous assure que cette maison, on l'a lavée une fois ou deux, les panneaux étaient comme neufs. Bon, alors, on va passer à la suivante. Voilà. Donc là, vous voyez le montage. Donc les fameux tours dont je vous parlais, les voilà. Et j'en ai profité pour fixer, donc comme on peut le voir ici, sur le nez de la dalle, de fixer ici des goujons. Et on a fixé donc uniquement par boulonnage les panneaux sur la dalle et sur le plafond. Donc les panneaux arrivent, on les pose, c'est terminé. Maintenant la toiture. Alors la toiture, c'est toujours très compliqué de faire des toitures sans pente. Nous, on a expérimenté donc polyuréthane et une feuille de butyl. Le butyl, c'est une feuille, on va dire, de caoutchouc qui faisait 1 mm d'épaisseur. On nous a livré toute la surface de la toiture en une seule fois. On a pris un petit engin, on a posé la bâche sur le toit, on l'a déroulé et la maison était étanchée dans la journée. Pour éviter que la succion du vent soulève la bâche, on a mis des gravillons sur la toiture. Les gravillons avaient l'avantage, un, de lester, et deuxièmement, quand il pleut, d'amortir le bruit. Et le butyl a été agrafé en bordure. 50 ans après, le butyl était encore correct. Je ne dis pas qu'il était parfait, il était correct. il n'était pas correct.
Ça n'existe plus, ça.
En périphérie, à cause des ultraviolets.
C'est le PDM.
Qu'il avait un peu détruit.
Vous aviez dit que la toiture, c'est des panneaux bois qui sont en fait assemblés par bandes, comme ça.
Oui.
C'est ça. Et dans le montage, en fait, c'est des panneaux qui sont donc indépendants les uns des autres.
C'est-à-dire,
comment ça tient tout ça? Parce que vite on fixe la façade sur les panneaux bois, mais les panneaux bois, ils sont eux-mêmes pour l'instant indépendants les uns des autres. Donc...
Alors, comment on a fait c'est un peu bricolé, hein, ça je ne vous le cache pas. Donc, on a reçu les panneaux, mais on peut voir la photo de la toiture. Voilà. Voilà, on a reçu les panneaux, vous voyez, ça c'est le calepinage. Des panneaux qui ont été commandés. Donc, on a posé le premier panneau et on l'a découpé sur place. Parce qu'à l'usine, on ne pouvait pas le découper comme ça. On l'a découpé sur place. On l'a posé et dessous, on a mis un échafaudage avec deux étés et on a monté le deuxième panneau. Donc, il pouvait se monter. Troisième panneau et ainsi de suite. Et quand on est arrivé au milieu, effectivement, avec les joints, on a eu un petit problème. C'est pour ça que, ici, le panneau du milieu, il est monté avec un jeu comme ceci. Et on l'a écrasé. C'était un peu juste. Mais bon, ce sont les aléas de la construction. On ne sait pas le tout, hein.
Comme
ouais.
Ça rend
tout solidaire. Et ils tiennent tous en deux parce que, si vous voyez, ils sont liaisonnés d'une façon au-dessus, ils sont liaisonnés par une poutre en bois pour éviter que ça ne bouge. Mais voilà, dessus. Alors, ça, c'est une toiture qui est relativement intéressante parce que ces panneaux, ils se fabriquent encore. Hein. Quand vous prenez ce panneau, il est relativement flexible. Donc, Vous pouvez obtenir une toiture galbée dans un sens ou galbée dans l'autre. Elle a été vernie qu'une seule fois et en même temps, ça fait office de faux plafond. Elle est parfaitement horizontale parce que les cloisons que vous allez voir, si on regarde le plan maintenant, voilà. Initialement, à part le bloc central qui était en maçonnerie pour faire la stabilité, c'est ça la particularité de plusieurs des bâtiments de Jean Prouvé, il y a toujours un bloc central de stabilité. À part ce bloc central qui fait la stabilité, tout le reste devait être en panneau de bois. Je n'ai pas pu les faire fabriquer parce que je m'y suis pris trop tard. Et que c'était les vacances du mois d'août, donc j'ai été obligé de les faire en maçonnerie. Mais sinon, à part ce bloc, tout le reste est en bois. Ça arrive, c'est pratiquement fini, c'est monté. Pour ce qui concerne les portes, c'est le panneau, et dans le panneau lui-même, on fait la découpe. Tu vas voir la photo? D'accord. Voilà, c'est bon. Non, c'est long. Ah, mais voilà. Donc, vous voyez, alors, donc on prend le panneau, on fait la découpe, on met deux charnières, et ici, vous avez la serrure. Bon, évidemment, ça fait un peu porte-bateau.
Alors,
oui, pour le pied. Bon, mais mes parents, vous voyez, ils s'y sont faits, hein, très facilement, alors qu'ils venaient de la campagne. Alors, ce qui est intéressant aussi, que j'ai expérimenté avec eux, c'est l'ensemble de la cuisine. Bon, à l'époque, on ne parlait pas beaucoup de cuisine un peu séparée comme ça. Donc, j'ai fait un plan de travail simple. Les portes, il n'y a pas de poignée, mais c'est fait uniquement par les décaissés de de montant dans la menuiserie. Et pour ce qui est des portes, vous voyez les panneaux de plafond, hein, c'est assez agréable de voir. Et pour ce qui est des placards, il y a deux placards, c'est une simple feuille de contreplaqué rigidifiée par les poignées. Et ça, vous retrouverez ce détail-là dans les meubles de Charlotte Perriam et de Jean Prouvé. C'est le... Et ces portes, 50 ans après, hein, ça fonctionne encore. Bon, tu peux mettre un petit peu de vaseline au fond, mais en fait, ça marche encore. Feuille de 8 mm d'épaisseur. Ensuite, ici, vous avez donc, pour une chambre, il me restait des chutes de panneaux. J'avais fait ici un bahut. Là, c'est pareil, des portes vers coulisses 5 mm d'épaisseur. Et en même temps, ça fait une barrière vis-à-vis de l'extérieur. Et il ne restait plus que l'histoire du chauffage à solutionner. Alors là, je me suis planté complètement, parce qu'on fait des erreurs quand on construit. C'était au début du chauffage par le sol. Jean Prouvé m'avait dit, pour le chauffage, tu n'as qu'à mettre un serpentin dans le sol et ça va chauffer. Or, c'était le début, donc, des chauffages par le sol. J'ai espacé beaucoup trop les tuyauteries, par souci d'économie ou par ignorance, peut-être. On va dire plutôt par ignorance. Et donc, ça chauffait beaucoup trop par endroit. Et donc, on a été obligé de le supprimer. Et on a mis, donc, on n'avait pas de place, on a mis des radiateurs couchés. Voilà. Alors, bon, ce que j'ai appris par la suite, c'est que le chauffage par le sol, c'est très bien, mais il faut savoir doser la température. Et surtout, actuellement, il y a des appareils qui vous permettent de chauffer plus une pièce que l'autre et de régler la température comme l'on souhaite entre le jour et la nuit et le temps. Chose qui n'existait pas à l'époque, on avait un robinet et puis ça circulait et ça chauffait beaucoup trop. Alors maintenant, il y a une porte là qui est assez intéressante, c'est cette porte-là. C'est toujours une porte en tôle émaillée. Elle est faite, je crois qu'on a une coupe peut-être, non? Il y a quoi? Non.
C'est
ah oui, voilà, c'est là. Donc, vous voyez, ça c'est l'extérieur, ça c'est l'intérieur, c'est la même tôle. Toujours maintenue par du polyuréthane, et voilà comment on fait les bâtés. Alors, pourquoi un rond rouge? La question m'a été posée plus d'une fois. C'est qu'à l'époque, je voulais faire de la sculpture, enfin, je voulais faire des dessins sur la tôle émaillée. Or, quand vous émaillez une tôle, vous projetez une espèce d'émail qui est comme de la poudre, et si vous tracez un trait, quand vous passez la tôle dans le four, eh ben, là où il n'y a pas d'émail, il y a la trace, et ainsi de suite. Et donc, j'étais donc à l'usine d'émaillage. Et puis le responsable de l'émaillage me dit, mais qu'est-ce que tu veux comme motif? Alors je voulais dessiner une clé, une grande clé. Avec mon doigt, je voulais dessiner une clé. Il m'a dit, oh là là, ça c'est trop compliqué, alors qu'est-ce qu'on fait? Donc on a dessiné un rond, et puis il me dit, mais qu'est-ce que tu veux y mettre dans le rond? Mais tu mets du rouge, voilà. Donc l'un est sur l'autre. Mais vous voyez, des fois, c'est immédiatement comme ça, sur place, que l'on fait des choses. Alors, vous dire que je parle beaucoup de la tôle émaillée parce que ça me plaît énormément, la tôle émaillée, parce que ça a des qualités que je trouve extrêmement intéressantes. Malheureusement, c'est très cher. Et ce qui est agréable, c'est de savoir que on peut faire toutes les couleurs. On peut faire des auréoles, on peut faire tout ce que l'on veut, à condition de bien maîtriser le pistolet. Alors, vous verrez du mobilier qui est en tôle émaillée brillant. Par exemple, des cuisinières, elles sont brillantes. Des vieilles cuisinières brillantes. Et puis, vous avez des casseroles qui sont mates. Et des casseroles ou des bâtiments ou des panneaux qui sont semi-mates. Alors, comment est-ce qu'on fait du semi-mat? Eh bien, c'est très simple. On dérègle le pistolet. Donc, c'est sur place que j'ai appris qu'on pouvait faire des panneaux émaillés en déréglant le pistolet de façon à ce qu'il ne soit pas éblouissant et qu'il ne soit pas brillant. Parce que la brillance est parfois désagréable pour les reflets. Voilà, donc toujours à l'usine, on apprend des choses. Et c'est pour ça que je vous conseille, vous qui êtes déjà des architectes, de traîner le plus souvent possible dans les usines et vous apprendrez beaucoup de choses. Alors la suite, c'était quoi? Bon, la suite, la démolition, on ne va pas en parler peut-être.
Et on n'a pas parlé des menuiseries et de la cheminée. Les menuiseries et la cheminée.
Les
menuiseries et la cheminée.
En face. Bon. Là, vous voyez la...
Oui.
Peut-être la première
vous voyez la cuisine.
De la maison.
La première
de la maison. Celle de 1970. Ouais. Avant. Encore avant. Celle-là. Là, on voit les menuiseries d'origine.
Voilà.
À pivot.
Ah.
Non.
La cheminée. La cheminée. Il y en a deux cheminées comme ça. Il n'y en a pas trois. Il n'y en a que deux. Une sur ma maison et puis une autre sur une maison que Jean Prouvet a dessinée pour un décorateur qui travaille chez L'Oréal ou quelque chose comme ça. Donc, c'est une cheminée girouette. Donc, la fumée sort, bien entendu, et elle tourne selon le vent. Et quand vous regardez comment est fait ce détail, il y a ici une aspiration qui se fait. Il y a une turbulence et une aspiration, ce qui fait que je n'ai jamais eu de fumée dans cette maison. Parce que s'il y a du vent, la fumée est aspirée, et la girouette, grâce à sa dérive, elle s'oriente toujours dans le bon sens. Alors, ça c'est une chose. Maintenant, les fenêtres, les châssis. Là encore, j'ai voulu faire de l'économie et faire au plus simple. Et je me suis dit, après tout, pourquoi pas faire une fenêtre qui pivote. Donc, la glace, c'est une glace trempée, avec ici un pivot, en haut un autre pivot, pour éviter que l'on ne passe au travers et qu'il y ait ici une espèce de barrière, il y a une grande poignée qui rigidifie la glace et dans la poignée, il y a le système de fermeture. Ce qui fait que lorsque vous êtes à l'intérieur, que vous fermez la vitre, vous avez une espèce de targette, comme on avait avant dans les vieilles menuiseries, vous tirez la targette et la porte est fermée. Chose intéressante, c'est que quand il y a du vent qui souffle comme ceci, selon l'orientation de la fenêtre, vous avez ou le vent qui rentre ou le vent qui est rejeté. Voilà. Bon, ça n'a pas très très bien fonctionné quand même, c'était de la théorie, mais c'est assez intéressant, surtout d'inclure dans la poignée le système de fermeture. On la remettra dans l'état où c'était initialement. Bon, de quoi voulez-vous que je vous parle encore?
Hein? C'est un élément collé, là. C'est un élément qui est collé sur le verre.
Je me rapproche. Hein?
Pardon. C'est un élément qui est collé sur le verre ou c'est un élément qui est dans le verre
La poignée métallique, ouais. Ah non, il y a deux trous et c'est boulonné. Et donc, c'est une poignée dans les maillots. Fermée, complètement fermée. Bon.
Le matériau du sol qui a été choisi pour
oui.
Le sol.
Ah oui, alors le sol. Bon. Alors on a fait toujours à l'économie. Donc on a décapé le sol pour enlever la terre végétale. Ensuite, on a fait une petite fondation et ce n'était pas nécessaire de faire une fondation trop importante parce que les murs pèsent peu. On a fabriqué des coffrages individuels pour chacun des panneaux avec deux trous qui ont fixé les chevilles, pas les chevilles, les tire-forts. Donc, on a coulé la dalle, on a décoffré et on a eu l'emplacement des trous pour chacun des panneaux. Le sol est un sol qui a été remblayé, compacté, avec du tout venant. Là, j'ai fait une petite erreur aussi, c'est que je n'ai pas tellement tenu compte du vieillissement du sol, d'autant plus qu'ils ont fait un ruisseau que l'on peut voir ici, et ce ruisseau est toujours plein d'eau. Donc, je suppose qu'il y a eu un petit tassement qu'il a dû se faire, que l'on ressent de l'autre côté. Et donc, sur ce béton qui a été coulé, on a mis 2 cm de panneaux de polyuréthane et on a mis par-dessus la chape flottante pour mettre le plancher chauffant. Voilà comment ça a été fait le sol. Et puis donc, à l'époque donc, de Total, il y avait des marchands de matériaux qui consultaient parce qu'ils avaient envie de placer leurs matériaux et un jour est venu nous voir les ardoisières d'Angers. Alors les ardoisières d'Angers, c'est une très très vieille société. Ils extraient de l'ardoise et ils m'ont invité à venir visiter la carrière d'ardoise. Alors on descend déjà, je ne sais plus combien, 80 mètres de profondeur. Et ils extrayaient l'ardoise en tranchant en plafond. Ils laissent tomber les blocs, ils les remontent, et puis ils les exfolient pour obtenir soit l'ardoise de toiture, soit pour faire du carrelage. Et ils m'ont dit, si vous voulez, il y a un stock de carrelage qui n'est pas tellement utilisable, si vous le voulez, on vous fait un prix. Et voilà pourquoi on a mis ce carrelage noir au sol, en ardoise, et je ne sais pas si ça plaît, si ça ne plaît pas. En tous les cas, pour l'époque, c'était assez agréable d'utiliser ce sol en ardoise. Malheureusement, c'est très difficile d'entretien. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais c'est très agréable parce que c'est un matériau qui est très agréable. Qu'est-ce que j'ai encore oublié ?
Et là, il faut remarquer quand même que même si elle est, si cette maison est issue de des stations Total, peut-être le fait que Serge fait cette maison pour lui-même, il sort complètement des normes de l'époque. Et ce qui la rend vraiment très belle, à mon avis, c'est qu'il n'y a aucune part close, alors que la maison Total, il y a des parts closes dans chaque panneau. Oui. Fermer chaque panneau, t'as une part close. Et là, on a un joint silicone qui fait tourner le rond de façon assez magnifique, en fait. Mais le joint silicone n'était pas autorisé. Tu le fais parce que...
Non, c'était pas autorisé.
Voilà, parce que prouver, vous avez des gens qui viennent chez vous, qui vous montrent du vitrage et qui le plient en vous disant ça marche très bien. Et vous l'essayez là. Mais c'est expérimental, en fait.
Tout à fait, mais il y a beaucoup de choses qui sont expérimentales sur cette maison. Hein. Ça m'intéressait de voir comment ça avait vécu, voilà.
C'est ça qui est intéressant.
Moi, j'avais une question aussi, c'est qu'on remarque, mais je l'ai vu aussi sur d'autres détails de prouver, et dans ce cas-là, par exemple, c'est que l'utilisation du polyuréthane, la manière de faire le tour, en réalité, sur ce projet, il y a très peu de ponts thermiques. Ce n'était pas une préoccupation, j'imagine, à l'époque, ou est-ce que ça en était une?
Alors... pour moi, c'était quand même assez naturel de veiller à faire quand même de la bonne isolation. Mais les vitrages ne sont pas bien isolés.
Oui. Et je parle du traitement des sourcils, le traitement des jonctions et des.
Mais pas suffisamment pour les normes actuelles. Hein.
Oui.
Parce qu'actuellement, il faudrait mettre beaucoup plus.
Non, mais parce que j'avais vu aussi une vidéo de Prouvé qui parlait de la manière de travailler les murs rideaux et qui, en 1970-72, parlait de la question du pont thermique sur les murs rideaux, ce qui était comme, qui paraît aujourd'hui, comme, quand on sait ce qu'on a fait dans les années 80 sur des trucs totalement énergivores, ça paraît. Voilà, c'est pour ça que je voulais savoir si c'était une pensée qui était dans le travail quotidien qui existait. Quoi.
Sur le métal, c'est important quand même. Parce que si c'est mal isolé, le métal, je vais l'arroser tout de suite.
Parfait. Non, mais c'est vrai ce que vous dites, le pont thermique, c'est quelque chose qui était très important. Et on l'a beaucoup travaillé. Il faudrait qu'on en discute plus longuement, mais c'est pas pour rien qu'avec avec certaines sociétés, on a développé des panneaux en polyester. Parce que le polyester a une plus grande résistance à l'isolation.
Et après, j'ai une deuxième question aussi. C'est dans la présentation que vous faites, il y a une alternance entre des plans généraux, des photos et des détails. Et je voudrais savoir, bon, parce que le détail il est extrêmement important, parce que c'est lui qui règle le système, parce que ce projet c'est comme un système constructif, il répète des éléments qui sont des éléments identifiés, le panneau de façade, le panneau d'ouverture, et toute la question du coup des jonctions devient une importance capitale. Et je voudrais savoir si dans le travail d'élaboration, dans la conception du projet, dans la démarche, est-ce que à quel moment intervient le détail? Est-ce qu'il n'intervient qu'à la fin? Est-ce qu'il intervient
au début? Par contre, pour Grenoble, on n'a pas eu tellement le souci des ponts thermiques, je vous le dis tout de suite.
Oui, mais c'est pas un bâtiment chauffé.
Mais il y a eu d'autres bâtiments où des constructions avec des poteaux pliés comme ceci ont été isolées. Mais bon, il y avait un problème d'économie, il y avait un problème de rapidité, il y avait...
Je crois que sur cette question, tu pourrais montrer le bâtiment des Arcs de Mille. La maquette des Arcs de Mille.
Oui.
Parce que lui,
il était super isolé.
Il résout des problèmes thermiques extraordinaires.
Celui-là. Ouais, parce que là, il y a un seul panneau. Le mur est en dessous.
Là, c'est super. Parce que si vous voulez, l'isolation qu'on avait prévue, je crois que c'était 120 mm d'épaisseur. Le panneau enveloppait complètement le bâtiment. Et même chez Matra, ils avaient fait, si vous voulez, des échantillons de panneaux, quoi qu'on descendait à moins je ne sais combien, à une température également très élevée, sans qu'il y ait beaucoup de différence de température. Mais dans tous les bâtiments de Prouvé, vous verrez qu'il y a toujours un souci de coupure thermique. Hein. Voilà.
Dans ce projet-là, c'est une cheminée centrale, hein. Il n'y a pas d'élément porteur central.
Pour ma maison, oui. Là, c'est la structure.
Ce n'est qu'une cheminée centrale.
Oui.
Il n'y a pas du tout de point.
Non, c'est une cheminée centrale qui est dans un lieu de convivialité. Alors,
tous les efforts sont reportés sur le cercle, en fait, oui. Qui est en haut, autour de la cheminée.
Exact. On le voit très bien avec la structure-là.
Et par contre, dans le projet Total, il y a aussi un noyau central.
Oui, alors le projet Total, il y a eu deux choses. C'est que, vous voyez ici, non, on ne le voit pas, mais le premier plan qui a été fait, c'était un trapèze, le même trapèze en partie supérieure, on le voit, et ça se terminait ici par une tôle pliée en forme de V. Je vais vous le dessiner, vous allez comprendre un peu mieux. Donc, on avait, voilà, en très gros, c'est ça. L'autre, c'est ceci. Ici, donc ça se terminait par une alvéole comme ceci, en col plié, une alvéole comme ceci, en col plié, et ainsi de suite. La charpente la structure est comme ça, et ainsi de suite. Une membrure de rupture pour les panneaux de plancher, et dans chacune des alvéoles, il y avait les canalisations qui venaient des pompes ou qui venaient de la sécurité, etc., etc. Où il y avait parfois même l'évacuation de la toiture. Donc chacune des alvéoles était assez fonctionnelle. Certaines ont servi pour fixer un escalier quand il y avait le bâtiment à l'étage. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu deux entreprises qui ont fabriqué ces stations. Une qui était du côté de Rouen, je crois, et l'autre du côté de Adam-Pierre-sur-Salon, du côté dans les Vosges. Et donc l'entreprise de Rouen a dit, oh, ça me coûte trop cher parce qu'il faut le plier, parce que ceci, parce que cela, on va mettre un cylindre à la place. Et c'est pour ça que vous voyez sur un des bâtiments un cylindre. Bon, ça fait rien, je vais dessiner. Donc ils ont pris un cylindre et puis ils ont fixé sur ce cylindre, en tôle, ils ont fixé les éléments de structure. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Parce qu'ils ont été obligés par la suite, soi-disant de faire des économies, de ramener toutes les canalisations à l'intérieur de ce cylindre, de le faire sortir et de mettre des coffrets. Alors que là, les coffrets, ils existaient toujours. Ça faisait coupe-feu et c'était aussi vite monté ça que ça. Et les stations qui ont été, la station qui a été récupérée par donc l'antiquaire, c'est une station comme ça, qui n'a rien à voir avec l'original.
Il y en a quand même qui ont été construites comme ça.
Cinq minutes.
Ah,
une. Oui. Enfin, comme ça, il y en a eu, je crois, une dizaine. À ma connaissance. Hein. Et là, il y en a eu beaucoup plus. Mais je ne les ai pas suivies toutes, hein, parce que on a eu des problèmes, que je vous dise, c'est que les problèmes qui se passent sur une construction, c'est que, et c'est pour ça que vous êtes architecte et je vous conseille de suivre vos chantiers, c'est que souvent, pour faire des économies, on ne respecte pas les matériaux d'origine. Or, sur ce bâtiment, on avait proposé de mettre au pistolet une couche de caoutchouc liquide. Donc on livrait la quantité nécessaire de caoutchouc liquide pour mettre sur le bâtiment. Cela donnait une épaisseur de 2 à 3 mm d'épaisseur. Sauf que, tout dépend qui projette le produit, tout dépend s'il y a du vent ou s'il n'y a pas de vent. Si vous avez du vent, le produit s'envole et vous ne le déposez pas sur la toiture. Or, comme il y avait des panneaux en bois, tiens, ça a été. Donc il y avait des panneaux en bois sur la toiture. Je suis meilleur que le stylo. Comme il y avait des panneaux en bois sur la toiture, les panneaux de bois ont légèrement joué. Et par endroits, ça a déchiré l'étanchéité. Bon, mais ça, Total, ça avait pris à lui-même parce que c'était Total qui suivait le chantier. Mais bon, voilà, simplement pour vous dire que vous êtes architecte, vous êtes responsable d'un bout à l'autre du bâtiment. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, ben, il faut avertir. Mais sans ça, ça s'est bien déroulé, hein.
Dans la question du dimensionnement en général, avec dans votre travail à vous, puis le travail que vous avez fait avec Jean Prouvé, vous faisiez beaucoup de calculs, c'était très compliqué, vous faisiez beaucoup plutôt d'échantillons, de tests. Comment vous travaillez sur tous ces matériaux? Est-ce qu'à chaque fois que vous avez dessiné des projets, ils ont tous été après calculés dans les efforts ou pas du tout?
Alors écoutez, je vais vous dire, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir aller dans les usines. Donc, on est en contact avec la matière. Et quand on a un projet, eh bien, on réfléchit beaucoup sur la fonction de chacune des pièces. Et quand vous le dessinez, ben voilà, vous coordonnez la fonction avec ce que vous connaissez et puis les matériaux et vous faites en conséquence.
Mais c'est assez intuitif, c'est-à-dire vous vous dites cette poutre comme ça, ou cette tôle pliée, elle va faire telle portée, mais ça va aller, c'est bon, ça marche. C'est très intuitif.
Ça, c'est...
Vous pensez que c'est parce que l'expérience qui vous donne l'intuition ou c'est finalement assez inhérent à...
Je sais pas.
C'est un peu comme nous.
Je peux vous proportionner une poutre sans la calculer. Hein.
Pardon ?
Je peux vous proportionner une poutre sans la calculer.
Oui, mais justement, c'est ce que je trouve intéressant, c'est ce que je dis aux étudiants.
Voilà.
Comment ça se passe ? En fait, vous n'êtes pas tout de suite avec la calculette.
Et puis c'est en...
500 kilos.
Je suis un grand observateur, si vous voulez. J'observe beaucoup les choses. Et je me dis, tiens, ah, là, ça me paraît un peu compliqué. La fonction me semble un peu excessive. Ou bien, regardez, si vous regardez cette poutre par rapport à d'autres qu'on a vues dans le bâtiment, je trouve qu'elle est un peu... Je n'ai pas vu ce qui se passe au-dessus, mais je trouve qu'elle est un peu haute, quoi. Comme ça, mais c'est... J'observe.
Et pour vous, le métal, l'acier, c'était vraiment un matériau idéal ou... Enfin, vous êtes parti dessus, disons un peu avec Jean Prouvé, bon voilà, ça
vous posez une bonne question, là.
Et, par exemple, pour vous, la maçonnerie, c'est pas...
Vous posez une bonne question. Alors, je vais vous dire, moi, le métal, je l'adore. On peut le cisailler, on peut le plier, on peut le façonner comme on veut, on peut l'emboutir. Et... Si vous voulez rajouter deux pièces l'une avec l'autre, vous le boulonnez ou vous faites une soudure. Et quand vous faites une soudure, c'est aussi résistant que si la poutre était en continu. Alors qu'avec le bois, c'est un peu plus compliqué. Avec du béton, raccorder deux pièces en béton, c'est aussi un peu compliqué. Donc c'est aussi par facilité constructive que moi j'ai choisi le métal.
Alors pourquoi, finalement, un peu en France, on est plutôt dans une sorte de...
Parce que ça coûte cher.
À l'opposé, on est plus dans...
Ça coûte cher.
Le métal coûte beaucoup plus cher que le béton.
Alors, Prouvé me faisait une remarque un jour. On était sur l'autoroute en allant à Grenoble. Et il se construisait un pont d'autoroute. Et il me dit, regarde la Binotto, le nombre d'échafaudages qu'il y a pour tenir ce pont, le poids que ça représente, d'échafaudages pour couler. Donc, il vaut mieux qu'on le fasse en acier plutôt que d'utiliser des échafaudages couler le béton pour avoir quoi comme gain ? Rien. C'est assez juste comme raisonnement. Et c'est pour ça que moi, je préfère voir des... Je préfère voir des jolies portées, des jolis ponts en métal qu'en béton. Maintenant, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients, bien sûr. On vous dit que le métal ne résiste pas au feu. C'est vrai. Mais est-ce que le bois résiste mieux? S'il y a un incendie, de toute façon, il faut détruire. Le métal, il se plie parce qu'effectivement, la résistance a été modifiée, mais bon, c'est comme ça. Hein. Voilà, alors, je suis quoi ?
Moi, j'avais des questions concernant le noyau central, justement. Comment sont... Déjà, est-ce qu'il dispose de fondations qui lui sont propres ? Et également, comment est relié le plafond à ce noyau central?
Ah, alors, comme vous avez pu le voir, vous avez le noyau central et vous avez des panneaux en bois. D'accord? Il y a des tire-fonds qui ont été noyés en partie supérieure du bloc central. Et donc, on a boulonné les panneaux pour ne pas qu'ils bougent. Voilà, simplement. On aurait pu... peut-être faire autre chose, mais là, on a utilisé des tire-fonds.
Le bloc sanitaire, il était préfabriqué, non? Vous l'avez...
Il y a quoi?
Un mirepoix. à Mirepoix, là, on voit le dessin du bloc sanitaire. Ce bloc sanitaire est préfabriqué ou...
J'ai été fait sur place.
Non, tout ça, c'était pas une place.
Mais on aurait pu le préfabriquer. Ah. Bon, là, ils ont, je vous dis, on a été pris un peu par le temps parce que mes parents devaient déménager, etc., etc. Alors que je vous dise, donc, mes parents ont été un peu les cobayes de cette maison, mais ils s'y sont plus. Donc cela veut dire que construire des bâtiments rectangulaires ou circulaires, tous ceux qui vous disent que ce n'est pas aménageable et tout, bon, moi j'en ai fait l'expérience, on l'aménage très bien, on y vit très bien. Bon, voilà, maintenant c'est une observation personnelle. Bon, en fait, je pense que vous allez pouvoir réfléchir maintenant qu'on on a parlé un petit peu de préfabrication, industrialisation, simplicité. Vous allez pouvoir réfléchir un peu à l'avenir des maisons qui se font maintenant.
Serge, est-ce que tu peux dire combien de... Enfin, l'économie de cette...
Alors,
sur cette maison?
Oui, je peux le dire parce que la question... Je ne sais pas, quelqu'un me l'a posé l'autre jour. Bon, elle nous a coûté exactement en euros, si je parle d'euros pour pouvoir comparer, elle nous a coûté 58 000 euros.
À quelle époque? C'était combien?
Là, maintenant.
Ah, c'était...
Actuellement, 58 000 euros. Mais il faut dire que j'ai passé mes vacances à la montée. J'ai eu un coup de main par mes parents.
Bon,
ça, je n'ai pas pu le chiffrer.
Combien de personnes pour la montée?
On était quatre.
Quatre personnes? Et combien de temps?
On l'a monté, on a commencé, je crois qu'on a commencé, les panneaux sont arrivés au mois de mai, et au mois de septembre, mes parents y habitaient. Voilà. Enfin, ils étaient obligés de quitter la campagne, donc vous voyez.
Et combien de temps d'études, combien de temps de fabrication des panneaux?
Ah,
la préparation, donc, pour
c'est,
aller
c'est,
vite.
C'est beaucoup plus long. Pour être honnête, les émailleries qui m'ont fait les panneaux, ils l'ont fait un peu à temps perdu. C'est-à-dire quand ils avaient un creux dans leur fabrication, hop, c'est ce qui se fait dans les usines. Hein. Des fois, vous passez commande de quelque chose. Voilà. Et malheureusement, pour les panneaux de bois, les panneaux Rousseau, je n'ai pas pu les avoir tous parce que je m'y suis pris trop tard pour passer la commande. Et c'était les vacances du mois d'août. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de plans de détails, il y a beaucoup de préparation à faire. Je n'ai pas compté le transport dans le prix que je vous ai mis. Sur facture. Bon, ben voilà.
Et puis une autre question, c'est que ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une idée de recherche de démarche expérimentale qui fait qu'il y a des idées qui sont recyclés à travers ce projet. Bon, celui-là, il fait référence un peu au projet de Total. Dans le premier projet d'Alpexpo, le détail du mur rideau, là, qui permet de reprendre la trame là,
oui.
De 300 à 270, il me semble qu'il y a une école qui utilise ce même système et qui a développé cette idée en faisant une espèce de d'ossature de mur rideau qui permet de ventiler la salle de classe, je ne me trompe pas, avec des volets
ah,
qui
ben,
se ferment.
Ah, ben, ça, c'est à... Oui,
c'est le même profil.
Oui, et puis ça n'est une autre, c'est à...
C'est un petit volet qui permet de ventiler par la menuiserie. Il n'y a pas d'ouvrant dans la menuiserie, c'est le porteur qui ventile.
Oui. Il y a plusieurs bâtiments comme ça, de fait.
Ça veut dire que ça, dans la pratique, c'est à dire que tout d'un coup, il y avait des idées dont on se disait on pourrait réutiliser cette idée d'investir intellectuellement sur quelque chose pour le réutiliser, le faire prospérer, quoi.
Bon, je ne les connais pas tous, les bâtiments qui ont été faits, parce que quand Prouvé avait son usine, il a fait des choses certainement exceptionnelles qui ont été démolies, surtout après la guerre. Et bon, mais je pense qu'il y a des idées qui ont été reprises de ventilation assez intéressantes. Et je peux vous dire qu'il y a un bâtiment qui a été fait, commandé par l'EDF. Il n'y a pas une seule fenêtre qui s'ouvre.
C'est ça que je veux dire. À cette école, il n'y a pas une seule fenêtre qui s'ouvre.
Tout en polyester.
les panneaux font, la toiture est en polyester, les façades sont en polyester et les glaces sont, ne s'ouvrent pas. Par contre, il y a une ventilation tout autour de la maison qui vient de par le vide sanitaire. Et cette maison, elle existe. Elle a été faite en 67. Elle a été restaurée et elle est comme neuve. Hein? Enfin, comme neuve, en très bon état. Donc tout ça pour dire que le matériau, si vous voulez, composite, ça le travaillait un peu à prouver. Hein? Je peux vous dire que il voyait qu'il y avait quand même la possibilité de faire des choses assez intéressantes. Alors ce qu'il trouvait aussi d'intéressant, c'était les containers. Les containers maritimes. Il disait, Binotto, tu vois tous ces containers, qu'est-ce qu'on ne pourrait pas faire avec tout ça? Proposer un permis de construire avec des containers, vous m'en direz des nouvelles. Alors, aussi un autre sujet qui intéresse Jean Prouvaire, et ça vous devez l'avoir sur les toits chaînes de certaines usines, il a intégré le chêne en un seul panneau. C'est-à-dire qu'il a supprimé la charpente traditionnelle pour en faire un seul panneau. Et sur un côté, avec la ventilation. Et donc son souci a été, parce qu'une fois on en a discuté très longuement, a été de dire, est-ce qu'on ne peut pas faire des économies dans la construction globale d'une maison, hein, puisqu'on parle essentiellement de maison, je ne parle pas d'HLM, enfin d'immeubles de grande hauteur, mais est-ce qu'on ne peut pas supprimer volumiquement des choses qui ne servent à rien? Voilà, je vous pose la question. Alors, si vous avez une pièce carrée, posez-vous la question, est-ce que j'utilise l'angle de cette maison? Vous n'irez jamais dans cet angle de la maison. Alors à quoi ça sert de le faire? De faire des économies.
Ça j'y pense.
Et ainsi de suite. Alors il y a une maison que je dois vous dire que j'apprécie beaucoup chez Prouvé. C'est le club des jeunes. On a fait un concours. Il devait se faire en France 1000 clubs de jeunes. Et donc, il y a eu un concours qui a été lancé par le ministère de je ne sais trop quel... Et donc, nous, on a proposé, ça n'a pas été retenu, mais enfin... Attends, ça marche peut-être mieux, hein.
Attends, c'est juste là.
Non, ça marche pas, tu vois.
Si, allez-y, avec le doigt, allez-y, avec plaisir.
Donc, il y a un décalage.
Allez-y.
Nous, on a proposé un bâtiment... Voilà. Voilà. Ici, il y avait donc une jonction. Ici, à un certain moment, il y avait une mezzanine avec un poteau, un petit escalier d'accès. Et si on regarde la vue en plan de tout ça, vous aviez le bâtiment, un bâtiment qui était comme ceci, l'autre bâtiment qui était comme ça. Une passerelle pour accéder l'un à l'autre et des panneaux montés comme ceci. Ça, c'est la vue en plan. Et ces panneaux donc, étaient, je ne me souviens plus comment c'était fixé en bas, mais ils étaient fixés entre eux ici en plein milieu et de l'un à l'autre fixés en plein milieu. Ceci était en contreplaqué et ceci était une feuille d'aluminium. La coupe du panneau que je peux vous faire ici, une ossature bois, la feuille d'aluminium qui était pliée comme ceci, le panneau bois en contreplaqué comme ça, et ici, par endroit, un perçage pour relier l'autre panneau. Et c'était boulonné dans l'épaisseur. Et c'était rempli de polystyrène. J'adore cette construction parce que qu'est-ce qu'il a été fait là-dedans? Il a intégré les parties verticales du mur avec un toit. Donc, ce n'est pas la peine que je vous en dise plus, le croquis parle de lui-même. J'ai participé pour la fabrication de quelques panneaux de ce club de jeunes, et ensuite, une fois que ça a été construit, on a passé 2-3 jours dedans. Je vous assure, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Ça ne s'est pas fait parce que, bon, ça ne s'incluait pas dans le site, et puis le jury n'a pas été d'accord parce que, à cause peut-être de la mousse en polystyrène, ça prenait feu, parce que, enfin bon, bref. Mais ce club existe encore, il est à Hermont, et c'est un des bâtiments que j'apprécie beaucoup. Alors les façades, bien sûr, les façades, c'est des façades qui sont toutes en verre, hein, avec ici une porte, c'est tout. Faites plus économique, je ne pense pas. Et alors, pour répondre un petit peu à une des questions que vous avez posées ce midi, on avait aussi proposé pour une station des Alpes, je ne m'en souviens plus laquelle, des bâtiments qui étaient faits en panneaux comme ça, avec un plancher. C'était fait en panneau sandwich, rempli de polyuréthane. On monte, et c'était fini. Les deux façades éclairées, et c'est tout. Donc, voyez, on a fait tout un tas d'expérimentations, mais toujours avec le souci de l'économie. Voilà, tout ce que je peux dire. J'ai passé ma vie à faire ça.